de l'évangile de Matthieu. On a des passages préférés dans la Bible, mais celui-là s'en est un. Auparavant, nous allons chausser des bottines de marche, parce que je vous invite à monter sur la montagne très haute où s'est passée la transfiguration de Jésus. Et j'ai grandement à cœur que chacun d'entre nous, on rentre à l'écart, bien sûr, on va laisser Jésus, les disciples, Élie et Moïse devant nous, qu'on se mette à l'écart, mais qu'on rentre quand même dans cette scène, parce que le Seigneur a beaucoup à nous dire de ce passage. Que Dieu nous donne la bénédiction de rentrer dans ce texte, l'un des plus majestueux du Nouveau Testament. Que Dieu nous donne la bénédiction de voir, d'écouter et surtout de comprendre ce qui est dit. Car c'est très important pour nous, pour notre croissance spirituelle commune. Alors, on va prendre l'évangile de Matthieu. On va prendre le dernier verset du chapitre 16. Et puis, on va prendre le chapitre 17 jusqu'au verset 9. Donc, Matthieu 16, 28 et Matthieu 17 jusqu'au verset 9. C'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Il fut métamorphosé devant eux. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Mieux traduit, c'est « Et voici que Moïse et Élie furent vus devant eux, devant les disciples. Et voici que Moïse et Élie furent vus devant eux. Ils s'entretenaient avec lui, avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse se couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Alors on a le même épisode qui est raconté dans, c'est facile à retenir, dans Marc au chapitre 9, et dans Luc au chapitre 9 également. Mais on a dans Marc et Luc des détails supplémentaires qui sont très intéressants, et on va en parler bien sûr, hein, qui sont très intéressants. Ils sont pour nous très intéressants. Mettons dans Matthieu, vous voyez, on ne voit pas que Jésus était monté sur la montagne pour prier. Mais dans Luc, on en parle. Jésus était monté sur la montagne pour prier. Et seul il priait, puisque le texte le dit. et que les trois disciples étaient appesantis par le sommeil de sa croix. Les évangiles rapportent plusieurs fois que Jésus montait sur une montagne seul pour prier. C'était soit le jour, ou soit le soir, la nuit. Alors, je me suis demandé, est-ce que chaque fois que Jésus était seul avec le Père, son visage se métamorphosait, car aucun être humain ne le voyait. On ne le sait pas. La Bible ne dit rien là-dessus. Mais je crois que ce n'est pas exclu, parce que si déjà on se rapporte à Moïse, quand il s'entretenait avec Dieu aussi sur une autre montagne et qu'il descendait vers le peuple, eh bien, le peuple voyait que son visage était rayonnant, pas comme le soleil, pas comme celui de Jésus qui rayonnait comme le soleil, mais quand même, ça devait être quelque chose. Alors, cependant, à un certain moment de la prière de Jésus, il est dit que Jésus fut métamorphosé devant les disciples. Le visage de Jésus était changé du tout au tout, car il resplendissait comme le soleil. Il n'y a que lui qui peut resplendir comme le soleil. Et de plus, il est dit que sa tunique était devenue d'une éclatante blancheur. Littéralement, j'aime bien les choses littérales, sa tunique émettait de la lumière brillante et fulgurante comme un éclair. C'est quelque chose. Alors donc, ça y est, on est dans un coin de la scène. Hein, on est peut-être tout peureux, mais je crois que ça doit être quelque chose. Hein. Et est-ce qu'on se dit là, comme les apôtres, certainement, mais quel choc. Quel choc. Oui, quel choc pour Pierre, pour Jacques et son frère Jean, qui le connaissaient quand même bien, Jésus. Peu avant dans Matthieu, Pierre avait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Bon, c'est pas le Saint-Esprit qui l'a dit ça, c'est inspiré par le Saint-Esprit, mais c'est quand même une parole de connaissance très forte sur Jésus qu'il a dit à Pierre. C'est impressionnant cette vérité qu'il a dit Pierre, juste avant. Et rappelons-nous aussi qu'avant ce grandiose moment de la transfiguration, tous les disciples, les 12, ils ont vécu des jours et des jours et des années avec Jésus. Quotidiennement, ils le suivaient, ils avaient entendu toutes les paroles du royaume que Jésus leur avait dites, ils avaient été envoyés deux par deux pour prêcher la bonne nouvelle, Jésus sans doute parfois les accompagnait, ils avaient vu Jésus accomplir des miracles, ressusciter des morts, chasser des démons, proclamer avec puissance le règne de Dieu. Donc c'était pas n'importe qui, les disciples, et surtout, ils connaissaient déjà Jésus, on peut dire. Ils le connaissaient assez bien. Mais ils ne le connaissaient pas comme ça. Et c'est la première fois que Pierre, Jacques et Jean vont connaître Jésus d'une telle façon. Et qu'est-ce qu'ils voient au juste, Pierre, Jacques et Jean? Eh bien, je crois qu'avant de s'assoupir, ils ont vu le visage normal de Jésus, certainement barbu, bronzé. Et d'un coup, ce visage est comme le soleil. Je me suis dit que la divine gloire irradiant du fort intérieur de Jésus est manifestée devant Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre fera écrire à Marc, plutôt le Saint-Esprit fera écrire à Marc que ses vêtements, là c'est l'apôtre, c'est Luc qui le dit, non c'est Marc, excusez-moi, que ses vêtements deviennent d'une telle blancheur que sur terre c'est une blancheur qui n'existe pas, on ne peut pas en trouver d'autres. Pareil, aucun blanchisseur sur terre ne peut blanchir comme ça, des vêtements blancs comme de la lumière. Alors est-ce qu'on est d'accord pour dire, les trois apôtres, ils ne savent plus ce qu'ils voient. Parce que c'est vraiment plus qu'extraordinaire, c'est vraiment plus que hors du commun, c'est tout à fait hors de notre sphère terrestre. Et je me suis dit, enfin, c'est intéressant à rapprocher, qu'est-ce qu'il dira l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5,16 ? Vous savez, juste avant ce verset bien connu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, qu'est-ce qu'il dit juste avant l'apôtre Paul ? Je vais vous le lire. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. On ne connaît plus ainsi. Certainement qu'il faisait référence à, bien sûr, à la transfiguration, mais bien sûr, après, à la résurrection, l'ascension, etc. Même les non-croyants, ils peuvent dire qu'ils connaissent Jésus. Jésus comme un homme, comme le premier homme complètement exemplaire. Ça, on le voit souvent dans les livres. Comme le premier homme non violent, pour certains c'est même le premier communiste. Oui. Mais leur connaissance, elle demeure très en deçà de ce qui est véritablement notre Seigneur. Je crois qu'on est tous d'accord, nous les chrétiens, pour le dire. Et on a un privilège de ne plus connaître ainsi Jésus. Il y a un fossé extrêmement large et profond entre connaître selon la chair et connaître et ne plus le connaître selon la chair. Et si vous voulez, la première chose que cet épisode nous montre, et qui est essentielle, je crois, c'est ne plus voir Jésus seulement comme un homme, mais voir surtout Jésus comme Dieu le Fils. Ne plus voir Jésus seulement comme un homme. Quelques mots sur la réaction des trois disciples. On a vu qu'ils étaient saisis d'une crainte violente. On verra tout à l'heure que cette crainte violente, ce n'était pas seulement de la peur, très loin de là, mais que cette crainte de Dieu, cette véritable crainte de Dieu, c'est quelque chose de très beau dans la Bible. Une fois, j'en ai parlé dans un entretien de la crainte de Dieu, mais là aussi, on verra plus tard, très courtement, c'est facile. Alors, une crainte violente. Dans Matthieu, cette crainte n'intervient qu'après que Dieu ait parlé. Par contre, Marc précise que dès qu'il voit Jésus, lumière, totalement lumière, les disciples sont saisis d'effroi parce qu'ils sont certainement, ils se considèrent comme poussière devant autant de... On n'est rien devant une telle lumière, devant Dieu lumière. Et puis parce que ce qu'ils voient, ça ne s'est jamais vu. Ça ne peut exister pour eux. Et d'abord, pourtant, ça y est. Et puis dans Luc, il y a une chose étrange et difficile à comprendre, mais ils étaient accablés de sommeil. Alors, moi je ne sais pas expliquer, personne je crois que je peux l'expliquer, mais je vais faire peut-être en 20 secondes une psychologie à dessous. Je crois que probablement ils ont un choc dans toutes les composantes de leur être, un choc à la fois émotionnel, psychique, spirituel bien sûr, et physique. Parce que vous avez essayé de regarder le soleil en face, ce choc, on ne peut pas, ce choc, ça nous fatigue au plus haut point. Mais, comme le dit le texte, ils ont fait quand même l'effort de se tenir éveillés, car ils sont avant tout saisis, éblouis, subjugués. Et je crois qu'ils sont bien faits, bien sûr, ils sont bien faits. Alors, leur réaction intérieure maintenant, ce qu'ils n'ont pas dit, parce que pendant un bon moment, ils n'ont pas pu parler. On le voit mal dans le texte, mais si on voit d'après les originaux, il y a un décalage dans le temps. Ils n'ont pas pu parler, et c'est normal. Leur réaction intérieure, je crois sans doute comme ça, en vrai tu es comme ça. En vrai, tu es comme ça, Jésus. Très probable. Très probable. Pierre, en tout cas, écrit dans sa deuxième lettre au chapitre 1, c'est un passage célèbre, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux, qui fait référence à ce moment. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. En vrai, tu es comme ça, Seigneur, Rabbi, Maître. En vrai, tu es comme ça. Alors sur le moment, c'est une question, une exclamation des disciples. En vrai, tu es comme ça. Et plus tard, pendant toute leur vie, ce sera l'affirmation. Et la façon dont les apôtres parlent de Christ dans les Actes, dans les Épîtres, et évidemment plus tard dans l'Apocalypse, heureux celui qui lit l'Apocalypse, la façon dont ils parlent de Jésus-Christ montre qu'ils ont ça chevillé dans leur cœur. En vrai, il est comme ça. Jésus est le Fils à l'heure. J'ai parlé à l'apôtre Jean, la vision de Jésus que l'apôtre Jean a au premier chapitre de l'Apocalypse est du même ordre, de la même intensité que celle de la Transfiguration. Je dis quelque part ça. Les yeux de Jésus étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. On pense ici, bien sûr, hein, embrasés dans une fournaise, on pense ici à un soleil qui brille de toute sa force et pas un soleil qui est pâle derrière des rideaux de brume, c'est tout à fait l'inverse. Et je me suis dit, maintenant, pour un peu avancer et voir coordonner ce texte avec d'autres, et dire qu'à ces mêmes-là, à Pierre, Jacques et Jean, Jésus qui est comme ça, Rabbi, Maître, tu es comme ça, Jésus dira à ces mêmes, ou à ses apôtres plus tard, je vous appelle mes amis, car je vous aime. Alors vous savez que les mots dans la Bible, ils doivent signifier pour nous ce qu'ils ont signifié pour celui qui les a écrites ou qui les a dites. Eh bien, pour Jésus, vous êtes mes amis, n'a jamais signifié vous êtes mes égaux. On n'est jamais glorieux comme le Seigneur. Et nous devons faire très attention à ça, vous êtes mes amis. Moi qui suis comme ça, moi qui suis la gloire de Dieu, toute la substance de Dieu, lumière pure, sainteté totale, moi qui suis comme ça, j'ai décidé de vous appeler mes amis. Et par contre, dans toute la Bible, personne n'appelle Dieu mon ami et personne n'appelle Jésus mon ami. C'est seul le supérieur qui dit à l'inférieur, je t'appelle mon ami. L'inférieur, il reste l'inférieur. Et il restera toujours l'inférieur. Et il n'y a rien de déshonorant à dire qu'on est l'inférieur de Dieu. Comment être l'inférieur de Dieu quand on voit ce passage? Dieu, Jésus est le Créateur et je suis qu'une créature. Il est le Sauveur. Je suis l'ancien pécheur, impur, pardonné, purifié et adopté. Il est le Fils unique. Je ne suis que l'un des fils adoptés. Il s'est incarné. Oui, il s'est incarné. Nous aussi, on s'incarne. On a une chair. Il s'est incarné. Mais lui, il s'est incarné sans péché. Et ça, ça fait toute la différence. Jésus est l'unique. Alors, si vous voulez bien un peu avancer, quelques mots sur Moïse et Élie. Nous avons précisé lors de la lecture que la traduction littérale, c'est Moïse et Élie furent vus devant eux. Ouais, ils sont vraiment là, apparaissant comme, et là c'est Luc qui le précise, ils apparaissent dans la gloire eux aussi. Ils apparaissent aussi dans la gloire, Moïse et Élie, c'est-à-dire dans la splendeur de leur corps glorifié. Ils sont là, vivants, bien vivants dans la dimension de l'éternité, Et de plus, il parle avec Jésus. Pour ça, c'est un moment que je trouve extraordinaire dans la Bible. Et mettons-nous à la place des apôtres, mais c'est un boomerang pour eux. On a rappelé tout à l'heure que le visage de Moïse, il brillait quand il descendait de la montagne voir le peuple. Ben, est-ce que Pierre, Jacques et Jean y ont pensé? Ils savaient qu'Élie avait été enlevé au ciel, qu'il avait échappé à la mort. Y ont-ils pensé aussi? Ils savaient que Moïse et Élie avaient été des annonciateurs de Jésus, des annonciateurs puissants de Jésus. S'en sont-ils souvenus? Je me suis demandé aussi, est-ce que l'un des trois apôtres a été tenté de dévaler de la montagne et puis courir vers le peuple, voir des scribes, des pharisiens, je ne sais qui, des prêtres, des lévites, pour leur dire « Venez, venez, il y a Moïse en personne, il y a Élie en personne, il y a ces témoins qui ont attiré toute la confiance de notre peuple, ces héros. Ils vont vous dire que notre rabbi a raison, il est vraiment Dieu. » Dieu. Ça aurait été fantastique, je trouve. Mais aucun des disciples ne l'a fait, n'a descendu de la montagne, parce que quand on est devant une telle scène, on ne peut pas partir. Déjà tout à l'heure, pendant qu'on chantait les chants, j'avais cette impression, je disais, mais. C'était des chants qui étaient très beaux, François, et tous tes chants, je trouve, s'harmonisaient très bien. Et j'aurais voulu déjà rester aussi dans cette scène de chant et rechanter et chanter les louanges de Dieu. Et bien là, c'est encore. Il voit Jésus, ben, comment partir? Et on comprend que Pierre a dit, on va faire trois abris. Alors, c'est intéressant parce que ça se passe pendant la période des tabernacles. Alors, peut-être, on peut supposer, Pierre dit, on va faire trois abris là, sur cette montagne, c'est magnifique, avec Jésus, et après, avec Moïse et Élie, et après, avec Dieu. Mais, alors, sous-entendu, il disait, on va pas bouger de là, tant pis pour les autres, ils ne sont pas privilégiés, mais nous, à un moment, aussi magistral, nous, on bouge plus. Mais, quand on voit la première chose qu'il est dit de Moïse et d'Élie, et je crois que c'est très important, c'est qu'ils sont avec Jésus, avec. C'est qu'ils sont vus avec lui, et cet avec est énorme de sens, à mon avis. Jésus a avec lui Moïse et Élie. Moïse, le transmetteur de la loi, et Élie, le prophète des prophètes de Dieu, le défenseur inégalé de la loi. Moïse et Élie qui représentent la loi et les prophètes, qui sont certainement les deux figures les plus marquantes de l'Ancien Testament. On peut penser aussi à Abraham, mais ce qu'ont vécu Élie et Moïse laisse sous-entendre qu'ils sont les personnes les plus marquantes de l'Ancien Testament, qui représentent à eux seuls l'homme de Dieu, le parfait homme de Dieu de l'Ancien Testament, qui résume en un mot l'Ancien Testament, sont bien là, vivants, devant les trois apôtres. Et par leur présence, en fin de compte, Moïse et Élie affirment en réalité, je me suis noté, « Voici Jésus de qui nous avons témoigné, celui par le pouvoir de qui nous avons œuvré, et celui qui a donné un sens à toute notre vie, à tout ce que nous avons dit, à tout ce que nous avons fait. Toutes nos paroles, toutes nos réalisations et tous nos espoirs trouvent leur accomplissement en lui. » Et donc, on dépasse ici bien loin du symbole. Hein. C'est vraiment du concret. Moïse et Élie sont bien vivants avec Jésus, et Jésus, il incarne à lui seul toute la Bible et surtout le Nouveau Testament. Donc, devant Pierre, Jacques et Jean, toute la vérité biblique est là. Tout le message biblique est là, devant les apôtres. Je crois que c'est plus que fort, c'est plus que grandiose, c'est énorme. Alors, évidemment, dans le texte de Matthieu et Marc, on peut être, dans le passage de Matthieu et Marc, Matthieu que j'ai lu, on peut être frustré. Parce qu'il n'est pas dit de quoi s'entretenaient Jésus, Moïse et Élie. Peut être frustré, ça, je crois bien. On peut être tout à fait en droit de faire cette constatation, parce qu'à un moment si important, bah, devait correspondre un message extrêmement important. Mais de quoi y parler au juste ? Bah, heureusement qu'on a, cette fois-ci, l'évangéliste Luc qui nous le dit. Cette conversation est l'une des plus importantes de la Bible. Parce que Luc précise que Moïse, Élie et Jésus parlaient du très proche départ de Jésus. En grec, de son exode. C'est une référence à l'histoire du salut des Israélites lors de la Pâque. Il parlait de ce que Jésus allait accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Il parlait de la croix, il parlait du tombeau vide, qui serait trouvé vide, de la montée de Jésus au ciel. Il parlait de l'œuvre centrale du Fils de Dieu. Il parlait de la raison pour laquelle lui, Jésus, qui est lui, lumière, s'est fait chair. Il parlait de ça et uniquement de ça. Sans doute, chacun des apôtres aurait eu envie de demander à Moïse, mais Moïse, raconte-nous mieux comment ça faisait quand ton visage brillait. Raconte-nous mieux la mer qui s'est ouverte pour laisser passer le peuple. Raconte-nous mieux la manne. Et puis Élie, mais Élie, raconte-nous mieux tel miracle. Raconte-nous mieux cet autel et coupe totalement mouillé qui cependant s'est enflammé d'une façon gigantesque. Et puis surtout, raconte-nous mieux ton enlèvement au ciel. Ça nous intéresse fortement. Et ben non. Silence total du texte devant ces suppositions bien légitimes. Le texte, c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Et c'est le Saint-Esprit qui a voulu qu'on sache uniquement le sujet de la conversation entre Moïse et Élie et Jésus. La croix, la mort de Jésus, qui est l'accomplissement du plan éternel de Dieu, et puis la résurrection et l'ascension pour le règne de Dieu. Sans qu'un boomerang pour Pierre, Jacques et Jean, eux pour qui la mort de Jésus était si dure à accepter, eh bien ils avaient devant eux ces deux représentants de l'Ancien Testament qui, dans leur connaissance parfaite des Écritures, comprenaient le plan de rédemption de Dieu. Je trouve ça extrêmement extraordinaire. Oui, depuis le départ de ce monde, Moïse et Élie connaissent et adorent Jésus. Et ils ont compris, insistant sur son point, ils ont compris complètement le plan de la rédemption. Les apôtres, ils étaient loin d'avoir compris. Très loin. C'est vraiment un stupéfiant moment. Alors, au bout d'un moment, Pierre, certainement tout tremblant, parle quand même. On l'a mentionné déjà, en substance, il dit « Bon, il ne faut pas bouger d'ici. » Et en gros, ça dit ça. Il ne faut pas bouger d'ici. Et ni Jésus, ni Moïse, ni Élie ne lui répondent. Et on comprend. C'est un décalage énorme entre l'entretien de Jésus avec ses hauts héros de la foi. Et ce presque saugrenu et égoïste, il est bon que nous soyons ici. Ça me paraît un décalage énorme, il est bon que nous soyons ici. Ah oui, c'est très bien. Mais... Oui. Alors je me suis dit, est-ce que Pierre pensait en disant cela, ce verset du psaume 27 qui dit « Ce que je désire ardemment dans mon cœur, c'est d'habiter dans la maison de Dieu ?» Ou bien, tout simplement, il était tellement saisi, tellement ébloui qu'il ne savait pas ce qu'il dit. Marc et Luc ont soin de nous informer que Pierre ne savait pas ce qu'il disait, effectivement. Et on peut traduire aussi, il ne savait quoi dire. Il ne savait quoi dire. Que dire devant une telle scène. Et en fait, je crois que les trois disciples étaient désarçonnés. Et c'est bon quand Dieu aussi nous désarçonne dans nos vies. Je dirais même malheur à nous aussi. En tant que chrétiens, nous ne sommes jamais désarçonnés par la puissance, la grandeur de Dieu. On n'est jamais remis en question devant la sainteté de Dieu. Et cela pour indiquer quelque part que nous sommes très loin de Dieu, de notre grand Seigneur Jésus-Christ. Continue. Ça va, on est toujours sur la montagne ? On reste dans notre coin ? Peut-être on se rapproche un peu plus, mais enfin, tremblant, peut-être comme Pierre. Hein. Pierre parlait encore quand une nuée lumineuse couvrit Moïse, Élie et Jésus. Et puis une voix se fit entendre. Une nuée, évidemment, dans toute la Bible, ça fait référence à la gloire de Dieu, à la Shekinah de Dieu, à sa présence. La Shekinah de Dieu, elle enveloppe Jésus, Moïse et Élie. Et elle laisse en dehors nos trois disciples. Et on comprend que nos trois apôtres sont saisis de frayeur et tombent la face contre terre, terrifiés à cause de la glorieuse présence de Jésus. De Dieu, de cette Shekinah. Et puis, surtout aussi, il y a une voix. Dieu, en personne, parle aux trois disciples. Dieu, en personne, parle audiblement du ciel à Pierre, à Jacques, à Jean. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? De quoi leur parle-t-il ? Est-ce qu'à Pierre, il parle de Pierre ? Est-ce qu'à Jacques, il parle de Jacques ? Est-ce qu'à Jean, il parle de Jean ? Non. Il parle à Pierre, à Jacques et à Jean de son fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Dans Marc, c'est la même expression. Et je vois ici que, pour nous, ça doit nous interpeller, on voit la signification première de ce verset si connu, mais qu'on voit qu'une seule partie, c'est « Dieu est amour ». L'apôtre Jean parlera beaucoup, mais il a vécu « Dieu est amour ». Dieu aime parfaitement son Fils, comme le Fils aime parfaitement l'Esprit, ou l'Esprit aime parfaitement le Père. Mais celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il n'y a aucune divergence entre Dieu le Père et Dieu le Fils dans l'amour. Ils s'aiment parfaitement l'un l'autre et réciproquement. Et puis aussi, dans Luc, il est précisé, Dieu dit, « Celui-ci est mon fils que j'ai choisi, mieux traduit, que j'ai élu. » Parce que je crois que l'élection, dans son sens le plus beau et le plus fort, elle concerne d'abord Jésus-Christ. Dieu a élu Jésus-Christ pour venir sur terre mourir pour nous, pour nos péchés. Au baptême de Jésus, Dieu avait déjà fait sa déclaration, je la lis, « Celui-ci est mon Fils élu. » Et à peine quelques jours avant la crucifixion de Jésus, c'est un petit verset qu'on pourrait passer assez rapidement, mais Dieu encore déclarera publiquement et directement qu'il approuve son Fils. C'est dans Jean 12, 28. Et puis Dieu y rajoute « Écoutez-le ». Et ça, Matthieu, Marc et Luc le disent, tous les trois. « Écoutez-le », ce qui en araméen signifie plutôt « Obéissez-lui ». Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils élu, écoutez-le, obéissez-lui. Et voilà, résumant en quelques mots, toute notre fonction sur la terre, toute notre mission sur la terre plutôt de fils adopté de Jésus-Christ. Écoutez-le, obéissez-lui. Et si on veut comprendre plus profondément ce que prononce Dieu ici, ce sera en gros, si mon fils vous dit qu'il doit aller à Jérusalem pour y souffrir et mourir, eh bien croyez-le. S'il vous dit qu'il ressuscitera le troisième jour, eh bien croyez-le. S'il vous demande de vous charger de votre propre croix et de le suivre, c'est ce que vous devez faire. S'il vous dit qu'il reviendra dans la gloire, croyez-le et vivez en conséquence. Alors maintenant, on arrive dans Matthieu à ce verset 6 dont j'ai parlé tout à l'heure. Une violente crainte les saisit. Évidemment, les disciples ne peuvent plus respirer. Ils tremblent de la tête aux pieds, ou je ne sais quoi. Est-ce que cela a été mauvais pour eux d'être saisis par cette violente crainte? Est-ce que ça a été mauvais? Et quand Jésus leur dit « Soyez sans crainte », cela veut-il signifier que c'était un tort d'avoir aussi peur de Dieu? On va tâcher d'y voir un peu plus clair. Et pour illustrer ce qu'est la crainte de Dieu, je vais faire référence à une comparaison physique. Vous savez que lorsqu'on serre le bras de quelqu'un, qu'on serre sa main, ben, il y a une marque. Ça fait une marque. Puis il y a des gens qui marquent plus que d'autres. Il suffit d'appuyer et on voit une tache. Ça dépend de la circulation du sang ou de la peau. Puis il y a pas d'autres choses certainement. Il y a des gens qui marquent plus que d'autres. Puis c'est comme ça. Eh bien, la crainte de Dieu, c'est une marque dans le cœur du fait qu'il est le Très-Haut. Et il y a des gens qui connaissent ça depuis l'enfance. Ils sont heureux, hein, un enfant chrétien qui... Il connaît ça, un enfant chrétien. D'autres qui se convertissent plus tard, mais à qui Dieu la donne, cette crainte. Et en fait, il la donne, cette crainte, à tous les enfants de Dieu. Mais certains la valorisent, et d'autres la négligent. Par ignorance, par mauvais enseignement, ou parce qu'ils ne lisent pas la Bible, je ne sais pas. Mais ces gens-là croient que toutes les craintes de Dieu doivent disparaître, même la crainte de Dieu, qu'il rabaisse une simple marque de respect. Mais la crainte de Dieu, c'est des milliards de milliards plus grand que le simple respect. C'est, on respecte son voisin, on respecte la voiture de son voisin, on ne l'égratigne pas. Et qu'est-ce que ça, ce mot respect, ça peut se comparer à la véritable crainte de Dieu. La marque de Dieu, c'est une marque divine, comme le doigt de Dieu qui a écrit sur les tablettes de la loi devant Moïse. C'est une marque bienfaisante. C'est une marque dans le cœur du fait que Dieu est le Très-Haut, le Tout-Puissant. Si vous voulez, c'est une marque de l'incroyable disproportion entre ce qu'est Dieu et ce que nous sommes. Ma dimension, elle n'est pas la mienne, elle n'est pas celle de Dieu, et loin de là. Et on doit avoir toujours dans, je crois, que nous ayons dans notre cœur cette marque de la sainteté de Dieu. Et est-ce que cette marque va m'empêcher de croire à l'amour de Dieu? Bien au contraire. D'abord parce que cette marque, elle vient de lui. Et donc, venant de lui, ce qui est bon, il est bon. Et c'est une bonne chose. Et elle ne va pas m'empêcher de croire quelque chose de lui. Et en plus, parce que cette crainte de Dieu, elle souligne à quel point c'est une grâce qu'il m'aime. Avoir la sainte crainte de Dieu, c'est une marque de sa grâce. C'est une marque qui nous montre qu'il nous aime. Ici, je crois que le texte est clair. Chez les disciples, il y avait, bien sûr, un mélange de vraie peur, celle que nous ressentons devant quelque chose qui nous fait peur, qui est anormal, qui nous inquiète, mais aussi de salutaire crainte de Dieu. Il y avait aussi cette salutaire crainte de Dieu, cette crainte que Dieu produit quand nous sommes attirés par ce qu'il est. Car la sainteté de Dieu, elle attire. Elle attire, ça, j'aime bien le dire. Elle attire, vous savez, comme ces gros aimants là, qu'on met sur les ports et qui plaquent les bateaux contre le quai pour qu'on les répare et qu'ils ne bougent plus. Oublier cette crainte de Dieu, que Dieu produit pour notre bien, ben c'est une anomalie. Si on n'a pas ça dans notre cœur, c'est une anomalie. Et ça, c'est, je trouve que c'était une leçon que ce texte va nous donner. C'est une réaction tout à fait anormale. La disproportion est tellement immense entre Dieu et nous que, vu d'en bas, à notre niveau, vu d'en bas, cette crainte, elle ne peut pas s'oublier et elle ne doit pas être oubliée. Comment, en effet, oublier que nous avons affaire au seul Dieu immortel, incorruptible, nous qui ne sommes que des pauvres créatures rachetées et auxquelles Dieu donne un inestimable cadeau en leur disant « Je serai votre Dieu et vous serez mes fils et mes filles. » Et vu d'en haut, vu de Dieu, comment Dieu considère-t-il cet oubli de la crainte de Dieu chez son peuple? Eh bien, je vais aller un peu plus loin dans le texte, toujours dans Matthieu 17. L'une des premières paroles que Jésus prononce quand il descend de la montagne et qu'on lui dit que les disciples n'ont pas pu guérir un enfant possédé d'un démon, Jésus dit « Génération incrédule et pervertie, combien de temps est-ce que je devrais rester avec vous ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus ne les aime pas, fait une crise de rage? Non. Ça veut dire que la disproportion justement entre sa gloire et l'incrédulité de ces gens qui sont abîmés dans leur péché, pour lui c'est un peu plus douloureux, ça traduit sa déception et sa souffrance devant tous ces gens, au point qu'ils n'ont aucune idée des bienfaits de la salutaire crainte de Dieu, leur Père, son Père, la crainte de Dieu, son Père. Oui, qu'on se laisse accompagner toute notre vie de cette salutaire crainte de Dieu. La conclusion de notre texte, je lis, « Ils ne virent personne, sinon Jésus seul. » Alors ce verset a été beaucoup cité pour le commenter, on peut le voir, il a été toujours commenté pour dire en gros, Jésus seul est le centre de tout. Et c'est vrai, c'est, Jésus est le seul suffisant. C'est totalement à 100% vrai. Nous, ses enfants, on a pleinement en Jésus. Mais bon, je crois que dans le texte, il ne faut pas aller plus loin. Il faut s'en tenir à cette stricte réalité que Moïse et Élie sont partis, puis ils se retrouvent avec Jésus seulement. Je crois qu'après cet épisode extraordinaire de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean verront Jésus, le temps qu'il leur reste avec Jésus, verront Jésus sous un angle totalement différent que les 9 autres apôtres. Ce qui ne les empêchera pas, hélas, de réagir si souvent devant Jésus de façon tellement charnelle, sous l'emprise du péché, et surtout du péché de la jalousie. C'est terrible, hein, un peu. Ils ont vu Jésus dans sa gloire, ils ont vu Jésus majestueux qui a réponse à tout, ils ont vu leur avenir même. Et puis, bon, c'est comme ça, ça montre qu'on est des pécheurs, mais qu'on doit se focaliser en demandant pardon à Jésus, bien sûr, de nos péchés d'abord, mais après de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous aider et de ce qu'il est dans sa gloire. Mais, et c'est très beau aussi, je trouve que obéissant tout de même à Jésus, qui leur avait recommandé de ne pas parler, à personne, ils garderont dans le secret de leur cœur ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu sur cette haute montagne. C'est très beau, cette question de garder dans leur cœur, parce que combien de fois un frère, une sœur, lui confier des choses très importantes pour lesquelles on prie pour lui, et puis on aurait tendance, on colporte. Mais là, ils garderont dans leur cœur. Et ce secret qu'ils ont, c'est une marque d'amour pour le Seigneur aussi, c'est une obéissance. Et je crois qu'on doit aussi, parfois, quand on a des secrets, surtout les garder dans notre cœur des autres, et puis prier pour eux. Ils garderont dans leur cœur cette expérience sans précédent. Moi, je dis, depuis celle qu'Adam et Ève, avait connu dans le jardin d'Éden. On est avant la résurrection, l'ascension. Hein. Cette expérience sans précédent depuis celle qu'Adam et Ève avaient connue dans le jardin d'Éden, avant leur chute dans le péché. Cette expérience extraordinaire qui est celle de la présence de Dieu qui parle audiblement. Bien sûr, il avait parlé audiblement à Moïse, à Élie, mais là, il y avait Dieu, il y avait Jésus, il y avait Moïse, il y avait Élie. C'est un moment extraordinaire de la Bible qui nous est dit dans quelques versets. Les disciples n'en parleront pas à leurs contemporains jusqu'à la résurrection, peut-être jusqu'à l'ascension de Jésus. Bien sûr, parce que Jacques est mort en martyr, peu après la naissance de l'Église, Jacques n'en parlera pas, mais Pierre et Jean feront mention dans leurs écrits de ce moment combien glorieux, qui révèle d'abord et combien la divinité de Jésus, et puis qui révèle aussi le sort magnifique que Jésus réserve à ses enfants, à nous. Pierre en parlera au premier chapitre de sa seconde épître, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, ce ne sont pas des femmes nues, mais nous avons vu la gloire de Dieu de nos propres yeux. C'est Pierre encore qui racontera à son ami l'évangéliste Marc cet épisode, et Marc l'inscrira dans son évangile. L'apôtre Jean en fera allusion dans le prologue de son évangile, c'est le verset 14, hein, je vous le lis. « Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse, une splendeur que seul le Fils unique, envoyé par son Père, pouvait posséder. » Sa première épître aussi, et surtout l'Apocalypse, parle encore de la divinité glorieuse de Jésus. Concernant l'apôtre Pierre, on voit que dans ses écrits, cette question de la gloire de Dieu est toujours liée à la seconde venue de Jésus. C'est un thème dominant dans sa prédication, dans ses écrits. C'est un thème dominant. Car n'est-elle pas, en fin de compte, cette transfiguration, un aperçu, une annonce bien réelle de la seconde venue de Jésus et de ce qui nous attend? Et ça, ça doit nous interpeller dans ce passage. Dans ce passage de la transfiguration, Jésus est à l'avant-scène, il le sera tout autant lors de sa seconde venue. Dans ce passage de la transfiguration, il est venu avec Moïse et Élie. Lors de sa seconde venue, il reviendra aussi avec ses saints, y compris ceux qui, comme Élie, seront enlevés dans les airs. Dans le passage de la transfiguration, Jésus se tient sur une haute montagne. À son retour, il se tiendra sur un mont beaucoup plus bas, mais celui des Oliviers quand même sera sur une hauteur. Et donc, en conclusion, je me suis dit que ce moment si important de la transfiguration nous s'encourage vivement dans notre vie chrétienne. Oui, Jésus reviendra un jour. Et j'ai lié ça au verset 10, à un verset de la deuxième épître aux Thessaloniciens, c'est le verset 10, mais je ne sais plus le chapitre, excusez-moi. Ce jour-là, Paul dit, nous serons subjugués, et j'ajoute, comme Pierre, Jacques et Jean, nous serons subjugués, c'est l'apôtre Paul qui le dit, nous serons subjugués, c'est exactement les mots dans la transfiguration. Nous serons subjugués par le rayonnement de son éclat, nous contemplerons sa gloire lorsqu'il apparaîtra revêtu d'une beauté inimaginable pour être honoré dans la personne de tous ceux qui se sont consacrés à lui. Et maintenant je reviens au chant qu'avait choisi François, ce chant 57, « Au toi dont les bienfaits ne tarissent jamais », ça correspond. Il est marqué « Nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir ». Rappelez-vous ce que Dieu dit, hein, « Obéissez-lui ». Et après, nous vers le ciel radieux, nous marcherons, séjour des bienheureux, nous marcherons joyeux, toujours joyeux. Est-ce qu'on pourrait pas le rechanter à la fin de notre culte? En pensant à ce passage si c'est enthousiasmant. Le 57. De joie et devant l'amour du Seigneur. Amen.